Bienvenue pour cette conférence sur l'industrie, une conférence qui renvoie sur un thème brûlant d'actualité puisque le président de la République a convoqué les états généraux de l'industrie, donc on peut s'imaginer qu'il y a une certaine urgence. Mon nom est Christophe Dunon, je suis directeur à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et c'est moi qui, au cours de cette conférence, jouera le rôle de modérateur et qui donc passera la parole successivement à la salle, puisqu'on attend bien entendu vos questions. Le principe des journées de l'économie, c'est le débat public. Donc il y a des micros qui peuvent circuler dans la salle et vous êtes invité bien entendu à vous exprimer librement, quelles que soient les questions que vous pouvez poser sur ce thème-là. Donc les conférenciers à ma gauche, Gilles Leblanc, qui est professeur d'économie à l'école des mines de Paris, et qui est chercheur également, et dont les publications récentes ont porté sur l'industrie. À ma droite, Gilles Maurer, vice-président du Conseil économique et social Rhône-Alpes, également vice-président du MEDEF Rhône-Alpes et président du Syntec Rhône-Alpes, et également président du cabinet de conseil Optance Management et Optime Ressources. Et tout à ma droite, Philippe Grand, qui est associé au sein du cabinet Ernst & Young, et plus particulièrement en charge au sein de ce cabinet des clean tech, ou ce que l'on appelle en français les écotechnologies, et également spécialiste de l'innovation. Voilà. Voilà le plateau. Donc, on va commencer par, brosser un tableau général de l'industrie en France, et puis peut-être faire un zoom sur Rhône-Alpes, histoire de chauffer un petit peu les questions. Et ensuite, on vous passera le micro, en espérant que vous puissiez rebondir déjà sur les premiers éléments de cadrage qui ont été donnés. Donc, pour faire transition, je vais laisser la parole à Gilles Leblanc, en lui disant tout simplement que bon, les états généraux de l'industrie, c'est donc qu'il y a une certaine urgence. On parle, comme vous le savez tous, on parle beaucoup de désindustrialisation, on parle de déficit de la balance commerciale, lorsqu'on sait que la balance commerciale est essentiellement liée à l'exportation de biens industriels. Donc, déclin industriel, est-ce qu'on est encore un pays industriel? Gilles Leblanc, quelques mots sur là-dessus.
Merci, bonsoir à tous. Effectivement, avec les états généraux de l'industrie dont vous avez parlé, mais aussi le grand emprunt dont on parle beaucoup depuis un ou deux jours, et d'autres opérations comme le Grenelle, la taxe carbone, les questions de politique industrielle sont un peu revenues sur le devant de la scène. Et une étape très importante quand on parle de politique industrielle, c'est d'abord de se mettre d'accord et d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Et cette question-là, elle est depuis quelques années principalement lue à travers une thèse qui est la désindustrialisation. Savoir que dans notre pays, l'industrie est de plus en plus petite, a quasiment disparu et est vouée même pour certains à disparaître et à laisser la place peut-être à une économie entièrement de services, de tourisme ou autre. Et puis, quand je parle de compréhension de l'industrie, c'est aussi avoir des représentations de ce que c'est concrètement. Et il est vrai qu'à la fois dans l'opinion, dans les médias, ce qui est beaucoup véhiculé, c'est... en gros, l'aéronautique et l'automobile, l'image d'usine, encore l'idée de personnel principalement non qualifié. Et je crois qu'une des grandes difficultés du débat actuel, elle tient à un certain nombre d'idées reçues ou d'idées fausses sur ce qu'est l'industrie. Donc je vais juste essayer de donner quelques points de repère qui me semblent indispensables. La première chose, c'est sur la désindustrialisation. On regarde les chiffres. Pour regarder les chiffres, déjà, on part de statistiques. Les statistiques qui sont réalisées chez nous par l'INSEE et qui appellent industrie un ensemble de secteurs. Ensemble de secteurs, un découpage de l'économie qui va inclure l'agroalimentaire, les biens de consommation, les biens d'équipement, l'automobile, statut particulier, les biens intermédiaires et l'énergie. Bon. Au passage, ce découpage, il date de 1945, il n'a pas été énormément modifié depuis. Et donc les chiffres qu'on sort, nous disent 13% en gros de la population des emplois et 13-14% de la valeur ajoutée, donc de la richesse créée, relève de cet ensemble-là. Donc c'est très peu. C'est très très peu. Pour bien prendre la mesure de ce que ça signifie, on voit qu'on parle en termes relatifs. Donc on va dire 14% de la valeur ajoutée du pays relève du monde industriel. Il y a quelques années, c'était 20%. Donc vous voyez, il y a une désindustrialisation, une baisse continue de la richesse qui vient de l'industrie. Mais comme on parle en termes relatifs, ce qu'on compare, c'est pas simplement l'activité de l'industrie par rapport au reste, c'est aussi les prix de l'industrie par rapport au reste. Et une façon de découper, de séparer les deux aspects, c'est de regarder ce qu'on appelle la production industrielle en volume, c'est-à-dire ce qui a été réalisé par les secteurs dont j'ai parlé au prix de l'année précédente. Et là, on obtient non pas une courbe qui baisse comme ça, mais depuis 25 ans, on a un plateau entre 17 et 19% de la valeur ajoutée en volume de notre économie vient du monde industriel. Et donc, ça veut dire quoi très concrètement, cette constante ? Eh bien, ça veut dire que pendant 25 ans, l'industrie s'est développée au même rythme que le reste de l'économie, puisque son ratio, son poids relatif est resté le même. Donc, par rapport à l'idée de désindustrialisation, ça veut dire que puisque le PIB, notre économie, a triplé en volume en 25 ans, l'industrie d'aujourd'hui est trois fois plus grosse que l'industrie de 1982. Donc le constat de désindustrialisation, il porte principalement sur l'évolution des prix relatifs des biens industriels qui, eux, par contre, ont fait que cette part stable a baissé relativement à prix courant parce que les prix de l'industrie par rapport au prix du reste, et en particulier du prix des services, ont progressé moins vite. Donc on voit, quand on rentre dans le détail de cette idée de désindustrialisation, on voit des choses un petit peu différentes. Par exemple, en Allemagne, on va dire en Allemagne, le poids de l'industrie reste de 22-23% de la valeur ajoutée. Mais en Allemagne, quand on regarde l'évolution des prix relatifs, les prix relatifs des biens industriels en Allemagne n'ont pas baissé quasiment au cours des 6-7 dernières années, alors qu'ils baissaient de 20% en France. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. Parce que quand on dit les prix ont baissé, ça veut dire que certes, la valeur ajoutée créée par les entreprises a été moins grande, mais ça veut dire que les consommateurs, c'est-à-dire nous, quand on achète, on a récupéré une partie de cette richesse produite, là où en Allemagne, la richesse produite a été intégralement capturée par les entreprises et pas par les consommateurs. Dans le domaine de l'emploi, par contre, il est clair qu'il y a eu une évolution très significative de baisse de l'emploi industriel. Alors là, à la fois en volume, puisque je parlais de volume tout à l'heure, et en poids relatif. Il y a eu à peu près sur 25 ans 2 millions d'emplois industriels qui ont disparu. On est passé de 5,5 à 3,5. Cette évolution, qui est effectivement très significative, ne doit pas nous faire oublier qu'il reste encore entre 3,5 millions et 4 millions d'emplois industriels, et surtout qu'à côté de ces emplois, donc ce n'est pas négligeable, quand on dit qu'il n'y a plus d'industrie, il y a quand même 4 millions de personnes, donc ce n'est pas négligeable, et surtout, il s'est passé depuis une quinzaine d'années un phénomène qu'on connaît, qui est le phénomène d'externalisation, c'est-à-dire que les entreprises, en particulier les entreprises industrielles, ont confié des tâches d'abord à faible valeur ajoutée, comme la cantine, le nettoyage, la sécurité, mais aussi de plus en plus des tâches assez complexes, comme de la comptabilité, de la finance, voire du recrutement, des parties de R&D à des entreprises extérieures. Mais ces entreprises extérieures fournissant des services sont classées non plus dans l'industrie, mais dans ce qu'on appelle les services marchands aux entreprises. Et alors que les emplois industriels baissaient, les emplois des services aux entreprises, eux, sur 25 ans, ils ont quasiment doublé. Ils représentent aujourd'hui à peu près 4 millions de personnes. Alors ces 4 millions de personnes ne travaillent pas tous pour l'industrie, c'est vrai, mais une partie significative est directement liée à cette évolution des frontières entre le monde de l'industrie et le monde des services. Et juste en termes de diagnostic, pour terminer, un point qui par contre n'est pas vu peut-être dans cet aspect purement quantitatif, quand on regarde que les pourcentages, et qui me paraît peut-être plus significatif que les pourcentages, c'est la démographie de cet emploi industriel. Aujourd'hui, à peu près 30% de l'emploi industriel a plus de 50 ans. Et ça, c'est pas quelque chose qui est capturé par les pourcentages relatifs des industrialisations et autres. Et à mon avis, par contre, c'est un enjeu au moins aussi important que l'équilibre relatif industrie-service, dont on se rend compte qu'en fait, il saisit de moins en moins bien la réalité, puisque l'industrie et les services vont être de plus en plus mélangés. Dernière caractéristique, puisqu'on voulait faire un espèce de diagnostic qui me semble important, l'industrie, une des caractéristiques de l'industrie, c'est quoi par rapport à d'autres domaines ? et je parlais des représentations qu'on avait en termes d'usines, c'est bien sûr que le fait qu'il y ait beaucoup d'investissements. Et donc l'investissement est quand même au cœur des logiques industrielles, parce que pour produire industriellement, il faut des sites de production, ça court sur des longues périodes de temps. Et en termes d'évolution de cet investissement, on se rend compte effectivement que dans l'ensemble industriel français, on investit moins qu'auparavant, hein, ne serait-ce qu'au cours des 6 dernières années, la part de l'investissement dans la valeur ajoutée est passée de 15% à 11%. Donc on investit de moins en moins matériellement, et on investit moins que les autres pays qui sont nos principaux concurrents industriels. Et un autre aspect important dans cet investissement, c'est qu'il ne faut pas regarder que l'investissement physique, tangible, il faut regarder aussi l'investissement immatériel, et en particulier l'investissement en recherche et développement. Et là, on se rend compte également qu'en recherche et développement, l'investissement de nos entreprises, je cherchais les chiffres les plus récents, donc il s'élève, on donne toujours des mesures un peu par rapport au produit intérieur brut, il s'élève à 1,3% de notre produit intérieur brut, l'investissement des entreprises, là où il est de 1,8% aux États-Unis, en Allemagne, plus de 2% au Japon, plus de 3% en Suède. Donc ça, c'est des caractéristiques qu'on ne voit pas vraiment dans l'aspect désindustrialisation, mais qui me semblent, à mon avis, aussi importantes sur l'avenir de notre industrie, cet investissement qui est plus faible que celui de nos concurrents, qui est évidemment, vous le savez, dans la période de crise qu'on connaît, qui est la première chose qui va être ajustée. Donc là, cette année, l'investissement industriel va reculer de 20 à 25%, ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme. Et toujours, quand on pense investissement en économie, il faut se dire... Ça a un impact aujourd'hui, mais surtout, ça a un impact à long terme. Parce que non seulement ces 20-25%, on les perd, mais en plus, ça veut dire que notre outil industriel, il a pris un an de plus. Donc quand demain, il faudra réinvestir, non seulement il faudra rattraper ces 25%, mais surtout, il va falloir rattraper 2 ans de vieillissement accru de notre outil industriel. Donc quand je parle d'un investissement en R&D et physique qui est plus faible que celui de nos concurrents, ce que je veux dire, c'est que notre... tissu productif, notre tissu industriel est plus vieux que celui de nos concurrents, et ça me paraît une caractéristique plus importante que le poids relatif des emplois ou de la valeur ajoutée qui, pour les raisons que j'ai décrites, est un peu difficile à appréhender ou qu'il faut interpréter très soigneusement.
Merci de cette intervention. Je vous laisse un petit peu de temps pour préparer vos questions. Je vais passer la parole à Gilles Maurer et à Philippe Grand, vous qui êtes... à la fois acteur et observateur de l'industrie en Rhône-Alpes. Que vous suggèrent les remarques de Gilles Leblanc ?
Non, enfin, j'allais dire, je souscris totalement à ce qui a été évoqué. J'avais d'ailleurs noté sur mes papiers cette notion d'externalisation qui vient effectivement modifier quelquefois l'image que l'on a de l'industrie française et également de l'industrie en Rhône-Alpes. Donc je pense que c'est un point sur lequel effectivement il faut être attentif, parce qu'on peut donner l'impression que l'industrie n'est plus à la mode, que l'industrie ne doit plus se développer, alors que ça doit être un socle de développement économique important. Je crois que c'est un point. Quant à l'investissement, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que vous me demandez simplement un commentaire par rapport à l'intervention de Gilles. Voilà, je préfère... passer la main sur ce thème-là, puis revenir après sur d'autres thématiques.
Un commentaire sur la région Rhône-Alpes, il serait assez facile de dire que la région Rhône-Alpes innove davantage que sa part dans le produit intérieur brut régional. Et donc, finalement, la région Rhône-Alpes s'en sort pas plus mal, voire un peu mieux que d'autres régions en France. Je pense que le constat reste néanmoins posé, d'une industrie qui se renouvelle moins vite que celle de des pays confrères et concurrents avec lesquels on travaille. Et en particulier, ça c'est une donne nouvelle que Gilles n'a pas souligné mais qu'il pourra confirmer, que les pays émergents sont eux-mêmes assez actifs en matière d'innovation. Il serait faux d'imaginer que la Chine reproduit des métiers traditionnels à forte densité de main-d'œuvre et n'est pas présent dans l'univers à haute valeur ajoutée, dans l'univers de la technologie à haute valeur ajoutée. C'est tout à fait faux. La Chine est très présente, par exemple, dans la filière photovoltaïque, y compris dans la fabrication des panneaux, des modules, pas dans l'assemblage, dans la fabrication. Donc, un endroit à très forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est une donne un peu nouvelle par rapport aux 10 ou 15 dernières années. Donc Rhône-Alpes est plutôt pas mal positionné en matière d'innovation proportionnellement aux autres régions françaises. Néanmoins, ce constat relatif ne permet pas de crier victoire ou en tout cas de laisser penser qu'on n'a pas malgré tout un effort, que l'industrie n'a pas un effort d'innovation à poursuivre pour augmenter sa part. Le chiffre qui a été cité par Gilles de 1,3% de dépenses consacrées à R&D en France est un chiffre qui doit alerter, qui alerte d'ailleurs l'ensemble des politiques, droite-gauche. On évoquait le sujet d'ailleurs entre nous. Il y a un consensus droite-gauche, il n'y a pas vraiment une politique au sens politicienne du terme forte en matière de soutien à l'innovation pour faire en sorte que l'industrie passe de 1,3 à 2, voire à 3%, ce qui était l'objectif annoncé à Lisbonne.
Alors, est-ce que ce stade, je dirais, de l'avancée du débat, il y a des questions ? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on rentre encore un peu plus dans le... Pardon, allez-y.
Bonjour, j'aimerais vous poser une petite question. Vous avez fait une comparaison avec l'Allemagne. Pensez-vous pas qu'en France, nous avons un réel problème structurel ? En Allemagne, vous avez beaucoup de PME importantes, extrêmement dynamiques, agiles, orientées vers l'exportation. Et en France, vous avez soit des PME petites, soit des gros blocs monolithiques, issus de la fonction publique, managés par des énarques, incapables de se réformer, et qu'à la limite, on n'en sortira pas.
On va, je pense que les intervenants vont tous vouloir répondre. Je vais leur passer la parole. Effectivement, je crois que c'est un point important, celui que vous venez soulever, la comparaison avec l'Allemagne, la comparaison aussi au fait que l'Allemagne a des entreprises de taille intermédiaire, que nous, en France, nous avons effectivement des entreprises qui n'ont pas la taille pour soit innover, soit se développer à l'international. Bon, donc, Gilles, je vous passe la parole.
Oui, je pense que cette question de la taille, j'en avais pas parlé volontairement parce que je sais que d'autres allaient en parler. Mais vous avez tout à fait raison, c'est une des caractéristiques, je pourrais en profiter pour développer un point, une des caractéristiques qui est bien mise en avant, un chiffre très simple. Si on considère les entreprises de plus de 250 salariés dans le monde industriel, il y a 4000 entreprises de plus de 250 salariés en Allemagne et il y en a 2000 en France. Donc il y a un écart de 2, quoi. Alors que les économies, évidemment, ne sont pas dans cette relation-là. C'est lié à l'organisation industrielle. Et l'effet de taille, pourquoi il est important ? Pas simplement par rapport aux comparaisons qui sont justes que vous faisiez, mais surtout sur deux aspects très importants. On a parlé de la recherche et développement, vous avez parlé des exportations. Il faut bien comprendre que pour arriver à exporter et pour arriver à innover, à faire de la R&D, il faut être en mesure de recruter des personnels spécialisés, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là. Et là, il y a des vrais effets de seuil, c'est-à-dire que c'est très difficile pour des petites entreprises d'avoir les moyens de recruter ces personnes-là. Et donc, dans une partie de l'univers des PME industrielles, il faut bien se rendre compte aujourd'hui en France, la question de l'innovation dont on parle tous et qui est avancée par beaucoup comme le salut n'est absolument pas une question pour elles. Pour peut-être la moitié des entreprises industrielles, la question de l'innovation n'existe pas du tout. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et juste un aspect par rapport à l'Allemagne, parce que ce que vous avancez est très important. On a beaucoup, c'est un point que je n'ai pas développé, on a beaucoup ces dernières années comparé la France et l'Allemagne, en particulier dans le domaine industriel. Et on a essayé de comprendre, on a utilisé ça pour essayer de mettre en avant des différences entre les organisations industrielles de ces deux pays. La différence sur la taille, elle est apparue en fait d'un débat qui était un débat sur la spécialisation, sur lequel je dis deux mots très rapidement. En 2005-2006, on a essayé d'expliquer un certain décrochage des performances de l'industrie française par rapport à l'Allemagne par le fait que la France était mal spécialisée, c'est-à-dire en gros qu'on n'était pas dans les bons secteurs et qu'on n'allait pas vers les bons pays. Et donc cette question-là c'était un peu une vue comme ça commune, hein. Elle était un peu débattue. Moi j'ai participé à ce débat en travaillant en particulier sur la façon dont la valeur ajoutée hein, dont était organisée l'industrie en France. Et en fait, ce qui ressort de l'analyse, quand on se compare à d'autres pays, puisque la notion de spécialisation est toujours comparative, quand on se compare aux autres puissances industrielles, ce qui est très frappant en France, c'est pas tellement la mauvaise spécialisation, c'est plutôt l'absence de spécialisation. C'est-à-dire le fait qu'en France, dans nos industries, on couvre tous les secteurs industriels. Il n'y a pas de secteur industriel dans lequel on est vraiment absent. Il n'y a pas de secteur industriel dans lequel on est relativement beaucoup plus présent que les autres. On est partout. Donc c'est moins un constat de mauvaise spécialisation que d'absence de spécialisation. Et ce qui était très frappant pour moi, c'est que si vous preniez les 10 secteurs qui contribuaient le plus à l'industrie en Allemagne, les 10 secteurs qui contribuaient le plus à l'industrie en France, 8 sur les 10 sont communs. Ça veut bien dire que ce n'est pas le problème d'être dans les bonnes cases. On est dans les mêmes cases que l'industrie allemande. Et donc la question devient, comment est-on dans ces cases? Et donc on a recherché d'autres explications qui étaient, d'une part, que ceux qui étaient dans ces cases étaient des acteurs de taille plus importante, qu'ils étaient organisés différemment, c'est l'aspect externalisation, que sans doute aussi, ils avaient un positionnement en termes de valeur ajoutée de haut de gamme plus élevé, avec moi un aspect qui me semble important, qui n'est pas trop vu dans le monde industriel, qui est la notion de marque, de réputation. Et puis aussi le fait que dans ces cases-là, ils y étaient, mais ils y étaient avec une intensité très forte que nous, on n'avait pas, au détriment d'autres secteurs qui, eux, avaient disparu dans leur tissu industriel et qui, chez nous, restent toujours présents.
Oui, pour rebondir sur cette notion de taille, sur ce que les propos de Gilles Leblanc, je pense qu'en fait, effectivement, on a un aspect de taille critique, d'une part parce que par rapport aux enjeux technologiques que sont effectivement les investissements, en particulier en matière de R&D, si on n'a pas atteint la taille critique, et on va voir quelquefois, je vous expliquerai peut-être à la fin pourquoi, quelquefois on n'atteint pas non plus la taille critique, donc on a du mal à investir, on a du mal à faire de l'expérimentation, donc il y a des échecs, et donc on retombe. Ensuite, on n'a pas le temps d'attendre les retours sur les investissements qu'on peut faire. Donc effectivement, cette taille critique est effectivement très importante par rapport à nos concurrents étrangers. Ça, c'est donc taille critique par rapport aux enjeux technologiques, et puis taille critique, ça a été un peu évoqué, par rapport aux enjeux géographiques à l'international. Je pense qu'on n'a pas les entreprises qui n'ont pas la taille critique pour développer un commerce international, pour mieux s'adapter à l'international, pour avoir des offres adaptées au marché lointain. On peut toujours donner les exemples des Chinois ou de tout ce qui est les pays, les BRIC, hein. Et puis les échecs qu'il y a pu avoir et qu'on est incapable de supporter lorsqu'il y a des essais à l'international, eh bien, fait que, effectivement, bien, les entreprises peuvent retomber et ne plus vouloir aller se développer. Donc cette taille critique est éminemment importante pour le développement. Alors, une des raisons, hein, mais il y en a d'autres, bien sûr, de la non-atteinte de cette taille critique, c'est que beaucoup d'entreprises, et on a des dizaines d'exemples, en particulier en Rhône-Alpes, c'est au moment de la transmission des entreprises, voire de la reprise. Au moment de la transmission des entreprises, eh bien, effectivement, sans vouloir tout focaliser dessus, mais les droits de succession, l'ISF, etc., les transmissions non préparées font que les entreprises sont quelquefois reprises par des fonds ou des partenaires étrangers qui, dans un premier temps, vont externaliser leur production, puis ensuite vont externaliser leur recherche et développement, enfin vont délocaliser, vont la ramener chez eux, et puis, résultat, eh bien, il ne restera plus par beau temps que le commercial en Rhône-Alpes. Donc, un problème aussi, là, d'une forme de désindustrialisation en Rhône-Alpes sur cet aspect de taille critique. Si les entreprises ne peuvent plus grossir, parce qu'au moment de la transmission auprès des enfants, pour les entreprises matrimoniales, et le tissu économique rhône-alpin est très présent là-dessus, et si on n'arrive pas à passer ces seuils de développement, eh bien forcément, ensuite, eh bien les entreprises ne peuvent pas grossir et elles se retrouvent effectivement rachetées par d'autres. Donc je crois que cette notion de droit de succession, de fiscalité en particulier au niveau de l'ISF, qui n'est pas de notre ressort direct, mais enfin bon, sur lesquels on peut se poser des questions. Et puis derrière aussi, tout ce qui est appui, je pense que ça sera aussi un autre sujet peut-être tout à l'heure d'intervention, sur les financements des capitaux. Je pense qu'on a besoin aussi de fonds pour pouvoir maintenir une industrie régionale forte et éviter justement cette disparition progressive des PME qui n'arrivent pas, ou des TPE, ou des PME qui n'arrivent pas à devenir des plus grosses PME comme le sont effectivement des entreprises allemandes.
Philippe, sur cette question qui rebondit sur d'autres questions et qui notamment sur lesquelles vous venez d'abonder, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a en France, effectivement, de passer de TPE à PME et de PME de taille. Comment voyez-vous les choses?
Alors je vais prendre un peu le contre-pied, même si je souscris à 100% à ce qui a été dit, et le constat est explicite sur le fait que le tissu des entreprises en Rhône-Alpes, comme d'ailleurs en France d'ailleurs, est significativement, je parle des PME ici, je ne parle pas des grands comptes, et je ne parle pas spécialement des énarques ou des X-Min qui les dirigent, si tant est que ça soit toujours le cas, mais parlons des PME, on a un tissu de PME qui définitivement est, en tout cas pour l'instant, est inférieur en taille aux entreprises allemandes, et en matière d'investissement, c'est terrible. Donc l'explication sur la capacité d'investissement, elle est là. Pardon, merci. En revanche, je vais prendre le contre-pied, parce qu'en matière d'innovation, il a déjà été démontré, et je crois que c'est une constante, que les grands comptes ne sont pas forcément l'endroit où l'innovation se déploie ou se crée de manière la plus significative. Donc en ce sens, je vais prendre le contre-pied, on aura toujours besoin d'équipes, de petites équipes, pour lesquelles l'émulation ne se développe pas à l'intérieur d'un système budgétaire centralisé et qui par ailleurs a sa raison d'être dans les grands comptes. Il faut bien gérer des équipes de centaines de personnes et il faut bien le faire dans des encadrements budgétaires particuliers. Mais ces encadrements ne sont pas propices au déploiement, au développement de l'innovation. Ça ne veut pas dire que les grands comptes n'ont pas une recherche très active, mais ça veut dire que les petites équipes, que les start-up, pour parler le langage, ont elles-mêmes une capacité d'innovation et de faire progresser l'innovation et la recherche de manière très significative. Et ce constat, il est partagé dans le monde entier. Et la bonne nouvelle, c'est que la France porte un grand nombre de créateurs, de manière d'ailleurs supérieure à nos voisins allemands, à nos voisins italiens, à nos voisins espagnols, mais pas à nos voisins anglo-saxons, anglais ou suédois, par exemple. Donc l'innovation se vit également bien dans des toutes petites structures. Dès lors qu'on a passé le cap de la recherche, de l'application, cette fois, l'absence de moyens pour faire les investissements structurants, pour recruter, ce qui a été évoqué, devient un critère, malheureusement un critère, un frein au déploiement de cette innovation. Et le constat qui est fait en France et en Rhône-Alpes est que les innovations, ne restent celles qui sont portées par des petites équipes, ne restent pas forcément sur le territoire. Donc tout se passe comme si, avec vos impôts, nos impôts, on avait financé des laboratoires académiques, très bien, qui avaient généré une certaine quantité de projets et d'équipes, et puis dès lors que la valorisation commencerait à exister, eh bien c'est racheté et ça part à l'étranger. Et bien après tout, on n'a qu'à vivre avec ça. Okay, si jamais ça permet de faire développer la valeur ajoutée, de maintenir des emplois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'absence de tissu industriel moyen fort est un handicap à la poursuite de cette croissance, mais la créativité, la création n'est pas en cause.
Alors, à ce niveau du débat, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les salles? Oui, là et là. Allez, on va prendre les deux questions en même temps.
Bonjour, je vais essayer de formuler la question de la manière la plus neutre possible. Comment analysez-vous la relation entre le besoin d'argent frais, de capital, notamment pour les lancements et les pleinement exploiter des brevets nouveaux, le fait que pour l'industrie, on ait besoin parfois d'horizons assez longs, et les attentes d'une économie financière et des actionnaires. Ça, je peux
répondre. On prend votre question également ?
Oui, moi je voulais poser aussi une question sur l'aménagement du territoire. Les pôles d'excellence qu'on a essayé de faire pour essayer d'organiser des classes 16 qui marchent justement avec les PME, ont-ils des chances de succès? Qu'est-ce que ça donne? J'ai aucune information sur les résultats qu'on a pour le moment.
Très bien. Eh bien, écoutez, on prend les deux questions. La question sur le financement Voilà, et la question a succès sur les pôles, de compétitivité, les clusters qui ont été créés il y a 2-3 ans. Où en sommes-nous? Est-ce que ça a apporté du plus ou pas à l'économie? Donc on prend la première question sur le financement. Vous en répondez là-dessus?
Je vais vous répondre pour la partie capital risque, parce qu'il y a plusieurs modes de financement, et si on les agglomère, la réponse devient partielle et fausse. Si on raisonne, je donnerai d'autres exemples. Si on raisonne sur le capital risque, on a en tête que les sociétés de capital risque n'investissent pas avec leur propre argent. C'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes, ces sociétés de capital risque, levé des fonds auprès d'industriels, auprès de fonds de pension, et elles disposent d'une manne de 100 millions d'euros qu'elles vont investir dans des entreprises souvent technologiques et innovantes. Elles ont l'absolue nécessité de poursuivre, ce n'est pas leur argent, donc cette capacité qu'elles ont de relever des fonds. Dès lors qu'elles ne lèvent plus des fonds, elles disparaissent. Et pour pouvoir lever les fonds, les 100 millions d'euros dont on vient de parler, elles ont besoin de démontrer qu'elles ont réalisé des plus-values avec les investissements précédents. Elles peuvent faire des calculs compliqués, des méthodes, des discounted cash flows pour montrer que demain on rase gratis et qu'elles feront des plus-values, mais on leur demande de démontrer qu'elles ont réalisé des plus-values sur les investissements antérieurs pour pouvoir relever de l'argent. C'est leur métier. Il est critiquable, il est scandaleux. C'est leur métier et c'est la modalité de fonctionnement de ces sociétés. On serait à leur place, on ferait la même chose. Donc l'horizon de temps qu'elles ont et l'horizon qu'elles ont de la nécessité de relever des fonds. Cet exercice, elles le font tous les 2-3 ans. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Congénitalement, elles n'ont pas le choix que de viser des sorties à horizon 3 ans, 4 ans, et le temps est un élément très critique du rendement de l'investissement, et elles ne peuvent pas avoir cette vision industrielle qu'un industriel peut avoir. Un industriel va souhaiter investir dans une innovation pour se garantir un avantage concurrentiel. À la limite, si c'est dans 5 ans, c'est dans 7 ans, c'est dans 8 ans. La vision n'est pas la même qu'un financier qui a cette absolue nécessité de récupérer son investissement pour pouvoir à nouveau lever des fonds. Ça va ?
Un commentaire sur ces questions, ou vous voulez répondre à la deuxième question?
Je voulais répondre pour les pôles. Allez,
on répond pour les pôles compétitifs.
Les pôles, enfin, une partie de la réponse, parce que je pense que mes collègues de la table ronde ou linéaire, je ne sais pas si elle est ronde d'ailleurs, pourront répondre également. Je pense que il n'y a pas de mesure de retour sur investissement des fonds et de l'argent qui a été mis dans les pôles, enfin à ma connaissance. Par contre, vous participeriez comme moi au pilotage, la coordination du pilotage de tous les projets qui sont issus des pôles de compétitivité. Vous trouveriez qu'il y a quand même énormément de projets qui sont nés de cette réflexion et du travail ensemble. On parlait tout à l'heure, avant la séance, de justement l'intérêt qu'il y avait de travailler beaucoup plus ensemble, quelles que soient les structures, les organismes, les organisations, etc. Je pense qu'on souffre en France de ce risque de cloisonnement. Les pôles sont justement ont un rôle de décloisonnement important, et le fait de faire travailler ensemble les gens, la recherche et l'industrie, éventuellement d'ailleurs d'orienter à terme, j'ai l'impression que ce sont des étudiants à ma droite qui applaudissaient tout à l'heure, je pense aussi que orienter la formation vis-à-vis de ce que vont développer les pôles, je pense qu'il y a un aspect d'orientation aussi qui doit venir fortement là-dessus. Ça, c'est un premier point. L'autre chose aussi, c'est qu'un intérêt, alors qui n'est pas directement financier, mais qui a un intérêt extrêmement important à mon sens, c'est d'apprendre, et je vous assure que ça a beaucoup évolué depuis la création des pôles, c'est d'apprendre entre ce qu'on appelle, j'ai horreur de ce terme, entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Alors donneurs d'ordre, alors l'ordre comme ça, puis les sous-traitants, c'est dessous. Non, c'est entre les grands et les plus petits, on va dire, mais qui ont chacun leur intérêt. On l'évoquait tout à l'heure, les petits, les équipes de recherche des petits sont très novateurs, et ils ont intérêt quelquefois à apporter des idées aux grands pour qui eux vont industrialiser les choses. Donc je pense que dans les pôles de compétitivité aujourd'hui, je pense qu'il se passe énormément de choses qui sont extrêmement rentables, Alors, le terme rentabilité, ce n'est pas forcément directement en termes financiers mesurables, mais sur le court, moyen et long terme par rapport à la formation, par rapport à l'enseignement supérieur, par rapport aux besoins des métiers. On s'aperçoit qu'on a mis en exergue l'autre jour, lorsqu'il y a eu un comité de pilotage des pôles, de bien faire retomber les besoins des pôles en matière de formation vis-à-vis des écoles, vis-à-vis des centres d'apprentissage, parce qu'il va manquer des métiers et les pôles peuvent être justement un élément anticipateur de ce qui va arriver, puisque justement les pôles travaillent aussi avec la recherche, l'innovation, et que donc forcément, qui dit recherche-innovation voit un petit peu plus loin que le bout de son nez. Donc ça permet effectivement d'orienter tout cela. Donc moi, je souscris tout à fait au développement des pôles. D'ailleurs, c'est pas, on en parlait également, le fait qu'il y en a peut-être même des nouveaux qui vont arriver, donc ça veut bien dire que ça doit marcher, parce que sinon on recommencerait pas des choses qui vont mal, hein. On va avoir d'ailleurs un super pôle, un hyper pôle ou un métapôle qui va s'appeler Écothèque aussi à Lyon. Enfin, il se passe des choses dans les pôles et je pense qu'il y a un retour sur investissement très intéressant.
Une réponse, Gilles, vous avez participé, je pense, avec le...
Vous
répondez d'abord sur le financement et après on reviendra sur l'épaule.
Sur le financement, parce qu'effectivement, c'est un aspect qui a été très négligé ces dernières années. Les horizons de temps des acteurs financiers, en particulier des acteurs financiers internationaux, ne coïncident pas avec les horizons de temps de l'industrie qui sont longs, voire très longs. Ils sont longs dans le monde matériel et ils sont très longs dans la recherche et développement. Alors, après, ça veut dire qu'il est très difficile, effectivement, d'attirer, à cause de cet horizon de temps, d'une part, mais aussi à cause d'un autre phénomène, dont peut-être que vous évoquiez aussi, qui est celui de l'exigence de rentabilité des acteurs financiers. Il est très difficile de présenter un espace attractif pour le monde industriel, parce que là... les horizons de temps sont longs d'une part et d'autre part les rentabilités évidemment sont faibles relativement par rapport à tout ce qui est réalisable soit dans le strict monde financier sur des outils financiers complexes ou alors aujourd'hui ce qui est en train de se développer très fort qui est un revival de 2007-2008 c'est les matières premières. Bon. Donc en termes de rentabilité et en termes de durée il est très difficile d'attirer des investisseurs extérieurs en capital. Et c'est une des raisons pour lesquelles, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Et il faut bien en tenir compte dans la réalité de ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a été ? Ça a été d'une part d'aller chercher l'argent auprès des banques. Donc du coup, effectivement, on a des taux d'endettement des entreprises industrielles qui est quand même extrêmement élevé et qui a explosé en 5 ans, en gros, d'une part. Et puis d'autre part... comme les acteurs financiers traditionnels n'étaient pas très très chauds, beaucoup d'acteurs, et en particulier des PME, et ce phénomène est peu connu et peu visible, beaucoup d'acteurs en fait ont ouvert leur capital ou se sont vendus entre guillemets à d'autres acteurs, principalement industriels d'ailleurs, d'origine étrangère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 40% de l'emploi industriel, 45% des exportations, en gros, pour faire un peu brutal, la moitié de notre industrie se trouve au sein d'entreprises dont le contrôle du capital et donc des prises de décision est d'origine étrangère. Une très faible partie d'ailleurs de ces acteurs étrangers sont les fameux fonds de pension dont on parle, parce que pour les raisons de rentabilité et de durée qui sont en jeu, ils ne sont pas du tout intéressés. Dans la plupart des cas, c'est des acteurs industriels, ce qui au moins rassure sur l'aspect long terme, qui par contre posent des problèmes très clairs de contrôle des compétences, de contrôle de l'avenir industriel et de la localisation sur place des sites. Donc on est allé chercher en gros auprès des banques et on est allé chercher en gros auprès des acteurs étrangers, ce qu'on ne pouvait pas trouver en termes d'investisseurs traditionnels. Et la fragmentation dont on parlait de nos tissus, évidemment, elle renforce cette difficulté. Parce que plus vous êtes petit, plus les banques vont être réticentes, on va vous imposer des taux d'intérêt élevés. Et plus, évidemment, il est difficile de trouver, de rassurer, de trouver des investisseurs. C'est plus facile quand on est un petit peu plus grand. Et donc, notre tissu qui est très fragmenté a beaucoup plus de mal à trouver des relais traditionnels. Les grands groupes, eux, ils échappent complètement à ça. Hein. Je vous rappelle qu'en pleine crise financière depuis le début de l'année, les 10 grands groupes français, de Danone, Air France, et puis bientôt Areva, ils lèvent 1-2 milliards comme ils veulent du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment une problématique des entreprises moyennes et des petites entreprises. C'est un facteur très très important, vous avez raison, cette problématique de financement. Sur les pôles, un mot très bref. Moi, j'ai assisté un peu à la naissance de l'objet pôle qui... cette idée un petit peu de cluster, hein, donc de jouer sur des logiques locales. Pour une fois, elle a été puisée un petit peu dans, j'allais dire, les travaux, les recherches des économistes, des gestionnaires, travaux de consultants qui ont mis en avant que cette forme-là pouvait donner des performances intéressantes. Et puis après, j'ai participé il y a 2 ans au travail d'évaluation qui a été mené des pôles. Donc après une période de 3 ans, il y a eu une évaluation qui a été conduite en 2008, qui a été réalisée par un cabinet de conseil. Et puis donc il y avait des gens qui essayaient un peu d'orienter les choses. Un petit rappel quand même sur l'origine, et parce que je pense que ça compte beaucoup dans l'intérêt qu'il y avait des pôles. Le pôle, il rompait en fait avec une grande tradition française qui était, l'idée que c'était par la taille, l'effet de taille, qu'on allait avoir des performances. Donc en gros, les champions voulaient faire de l'aéronautique, Airbus, voulaient faire de l'automobile électrique, Renault, Peugeot. On concentre tous les efforts dans un dispositif. Et puis ensuite, on pilote ça rue de l'école polytechnique, au ministère de l'enseignement. Ça rompait avec cette tradition-là parce que ça disait, un, l'innovation, elle va venir des relations qui vont se nouer entre des acteurs différents, des grandes boîtes, des PME, des chercheurs, des universitaires. Et puis deux, ça se disait, on va pouvoir piloter, c'est-à-dire sélectionner les projets et les financer au plan local. Donc ça, c'était une rupture vraiment très intéressante. Après, dans la pratique, la mise en œuvre de ce dispositif a suivi des chemins extrêmement variés pour une raison très simple, qui est que à partir de ces prémices, bien évidemment, et je trouve que c'est finalement respectueux de l'idée initiale, c'est tout à fait cohérent que les solutions qui ont été trouvées localement et selon les thématiques... Donc la question de l'évaluation... Il y a 2 ans, s'est posé très durement comment est-ce qu'on peut classer, évaluer ce qui s'est fait dans les pôles. D'abord, il y a 3 ans qui s'étaient passés, donc c'est quand même assez difficile d'évaluer des résultats concrets, mais surtout sur les contours même de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Parce qu'effectivement, on a mis 1,5 milliard, puis là, on remet dans ces pôles. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Là se posait le problème de la mesure, la quantification. Et donc il y a une voie médiane qui a été choisie, qui est à mon avis une voie un petit peu restrictive, qui était de dire finalement les pôles sont des objets qui crachent des projets de R&D, des projets collaboratifs au sens où associant des acteurs différents. Donc on va mesurer ces projets de R&D, leur nombre, leur volume associé. En faisant ça, c'était un peu une par défaut. En fait, on ne rendait pas compte, à mon avis, de 2 choses qu'il faudrait vraiment explorer dans une évaluation. C'est un, que tous les pôles vont être différents. Alors, il y en a peut-être trop, il y en a peut-être pas assez. Bon. Tous les pôles vont être différents. Et donc, la question de l'évaluation, il va vraiment falloir la décliner. Je prends un exemple très simple, c'est celui de la formation. Dans l'évaluation qui a été conduite au niveau national par le BCG, la question de la formation, je disais, il faut regarder la formation. La question de la formation, elle ne cadrait pas avec cette idée crachée du projet de R&D. Donc, elle a été prise de façon... qualitative. C'est difficile de mesurer, hein, de mettre une note entre 0 à 5 parce qu'on adore après 40 questions, enfin un total, et il y a l'épaule et puis il y a une limite. Bon, c'est comme ça qu'on voit l'évaluation. La question de la formation, qui est très importante, elle n'a pas été prise en jeu. La question éventuellement des travaux collectifs sur les exportations, sur une connaissance commune des marchés, elle n'a pas été prise en jeu non plus. Donc on a des problèmes d'évaluation. Et on en reparlera quand on évoquera la politique industrielle. Pour moi, c'est parce que finalement, on est passé très vite de l'idée de départ à l'instrument concret pôle, sans réfléchir vraiment aux objectifs concrets qu'on allait assigner au pôle. Je vous rappelle, dans le schéma de départ des pôles, l'objectif, c'est créer des nouveaux produits, lutter contre les délocalisations et faire croître l'activité économique. Bon, c'est très bien, tout le monde va être d'accord avec ces objectifs et tout le monde va dire n'importe quel événement qui va se passer dans le territoire va avoir un impact positif sur ces 3 dimensions. Donc, ce n'est pas du tout opérationnel, ces objectifs-là. Il faudra aller beaucoup plus loin dans le travail des objectifs concrets, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui est permis par le pôle qui n'aurait pas eu lieu sinon s'il n'y avait pas eu le pôle? C'est bien là que se joue la rentabilité des investissements publics réalisés dans le pôle. Et on a insuffisamment travaillé ça dans l'évaluation il y a 2 ans. Moi, je pensais en particulier qu'il fallait avoir une évaluation ex ante, c'est-à-dire que les pôles nous montrent les moyens qu'ils ont mis en œuvre, l'argent qu'ils ont mis sur la table, les réunions, les ressources humaines spécifiques qui n'auraient pas eu lieu sinon, et qui sont directement liées au pôle. Mais comme nous, on a une tradition quand même très administrative d'évaluation dite, je suis désolé, c'est un peu barbare, ex post, c'est-à-dire on va regarder après qu'est-ce qui s'est passé, combien d'emplois créés, combien de valeur ajoutée, combien de brevets. Évidemment, ça ne marchait pas du tout dans le cadre des pôles, surtout avec un horizon de 3 ans.
Juste, je veux pas un complément d'horizon, de temps. On a la chance en Rhône-Alpes d'avoir au moins un pôle qui s'est d'ailleurs construit bien avant que l'existence des pôles, qui est la microélectronique, l'électronique dans la région de Grenoble, et qui a une aura européenne. Si on dit qu'il existe 4 ou 5 pôles de microélectronique en Europe, Grenoble en fait partie. Donc on a en Rhône-Alpes un exemple. Et quand on se rappelle que la ZIRS de Meylan a été inaugurée en 1967, on mesure que 3 ans est probablement une durée trop courte pour pouvoir, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais probablement trop courte pour pouvoir exprimer une opinion motivée sur le rythme que va pouvoir, ce que va pouvoir produire les pôles de compétitivité. Donc l'idée qui était derrière les pôles a été présentée par Gilles, mais est-ce qu'on peut, au niveau des industriels qui les portent, suggérer qu'un pôle de compétitivité, ça apporte aussi une visibilité à l'extérieur? De Rhône-Alpes, qu'est-ce qui existe vu de l'Europe? Je ne suis pas sûr que, hormis Lyon et son équipe de football, on ait une vision fluide de la région Rhône-Alpes. Donc les pôles de compétitivité étaient aussi là pour ça, apporter cette capacité d'identification de centres d'excellence dans un univers qui est européen, qui est mondial. Et je pense que ça met du temps, et que la capacité des entreprises à travailler avec la recherche, avec la formation, bref, à nouer des relations interprofessionnelles à l'intérieur d'un pôle, est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Et il faut garder l'effort, parce qu'on est à peu près tous convaincus là entre nous, que c'est un des instruments efficaces pour l'avenir.
Je pense qu'on a répondu à votre question. Allez, encore une. Alors, on prend une question avant de passer à la deuxième partie.
Moi, en fait, j'ai une autre question, mais c'est sur celle qui a été posée par l'intervenant avant moi. J'ai trouvé des tas de chiffres sur les profits qu'exigent les fonds de pension de la part des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Et ça m'étonne beaucoup, je peine à y croire. Alors, comme j'ai 4 éminents spécialistes en face de moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils exigent vraiment. J'ai trouvé des taux de 6%, de 30%. 30%, c'est impossible. Bon, même 6%, ça paraît déjà démesuré. Alors, qu'est-ce qu'ils exigent? C'est vrai, c'est faux, c'est un mythe?
Je vais vous répondre. Ce qui est visé, ce qu'on appelle le TRI, c'est le taux de rendement de l'investissement. Ce qui est visé dans les investissements en amorçage, c'est-à-dire au tout début, au moment où il n'existe pas encore de chiffre d'affaires ou très peu, les TRI visés sont de l'ordre de 35 à 50%. La réalité, 5 ans plus tard, qui est l'horizon de sortie, dont on sait qu'il n'est pas adapté à l'unité de temps que requérait une équipe de recherche, ça serait plutôt 8 à 10 ans. Donc on sait qu'on a un problème de temps, de période de temps. Néanmoins, comme les fonds relèvent à minima tous les 4-5 ans, ils ont donc des chiffres tous les 4-5 ans. Le taux réellement constaté en amorçage est inférieur à 10%. Donc ce n'est pas parce que vous visez du 50% pour chacun des investissements que vous faites ou que vous souhaitez faire, que vous obtenez, c'est-à-dire que le métier de capital risque en amorçage est effectivement risqué, ou alors ce sont des buses, mais tous, hein, c'est tous vraiment des crétins finis, puisque quand ils investissent en pensant faire du 50%, ils font du 5%, ce sont tous des imbéciles. Mais si on suggère que ce ne sont pas tous des imbéciles, mais qu'effectivement on a un risque, ça veut dire que les sorties, la capacité à générer une création de valeur forte, n'est pas aussi courante qu'elle peut l'exister dans d'autres économies, par exemple aux États-Unis. Donc, il y a une différence significative entre le taux qui est visé et le taux qui est réalisé. Et si je ne visais pas du 35%, alors, vous savez que ces fonds ont l'obligation, enfin, cette partie d'argent qui est placée en risque, elle ne va justement pas en obligation d'État. Elle va justement pour financer du risque, et donc avec des rendements qu'on attend significativement supérieurs, puisque je prends un risque supérieur. Il y a une correspondance, si vous voulez. Donc, ce n'est pas choquant. de viser des TRI de 35 à 50% quand la réalité reste inférieure à 10%.
Oui, peut-être.
On t'a coupé la chic, Gilles.
Il marche pas bien. Si, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est les économistes quand même. Maintenant, on se méfie d'eux et on a raison. Sur cette question des fonds, je crois qu'il faut distinguer, sous ce terme-là, on va trouver des acteurs très différents. Ce dont tu as parlé, ce sont les fonds en capital risque. Donc en fait, c'est des acteurs qui investissent dans des très petites structures, des start-up. Et donc vous doutez bien, dans ces très petites structures, en gros, on va investir dans une dizaine d'entre elles. Il y en a 9 qui vont se planter. Et la dixième, comme elle est petite, elle va pouvoir effectivement croître très très vite. Parce que bon, au début, il y a très peu de personnes. Il y a 1 million de capital, 10 millions, 20 millions. Elle va prendre une valeur, on comprend bien, très rapidement, très forte. Et donc, on va pouvoir réaliser 35%, voire plus. Donc ça, c'est les fonds de capital risque. Après, il y a d'autres acteurs. Il y a les fonds de pension. Donc les fonds de pension dont on parle, c'est des acteurs qui portent en fait des actifs, qui vont donc des sommes monétaires qui sont versées en fait par des cotisants, par des salariés, par exemple CalPERS, le fonds des enseignants de Californie, qui cotisent, mais qui cotisent dans un fonds, et ce fonds place de l'argent de manière, avec les intérêts de ces placements, à payer les pensions dans le futur. Donc ça, c'est les fonds de pension. La logique des fonds de pension, eux, ils vont investir dans des entités qui doivent leur donner une certaine certitude à long terme. Parce que leur problème, c'est de pouvoir payer les retraites dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Avec des exigences de rentabilité, mais la logique des fonds de pension, bon, elle serait à examiner en détail, elle n'est pas toujours prédatrice ou catastrophique, parce qu'eux-mêmes, il faut bien qu'ils puissent servir ces pensions dans le futur. Après, il y a entre les deux d'autres acteurs qui sont des fonds de private equity, donc qui sont des fonds financiers fermés. Et là, ce qui effectivement a été une dérive, ça a été que la rationalité des fonds de capital risque, donc dans des petites boîtes qui peuvent croître très vite, a été déclinée dans des fonds de private equity s'appliquant à des entreprises moyennes ou normales. Évidemment, compte tenu de la croissance, quand vous avez une boîte de quelques centaines de millions de chiffre d'affaires ou de centaines de personnes, elle n'a pas doublé de volume en 2-3 ans, elle ne va pas pouvoir afficher des taux de retour extraordinaires. Et là, il y a une dérive, très clairement. Il y a une dérive par ces acteurs-là qui ont imposé des taux. Alors, le taux qu'on utilise, c'est le taux de retour sur le capital, hein, le return on equity, de 12, 15, 17%, parfois 30%, hein, ça existait, 30%, une boîte Saft, par exemple, on leur a imposé 30%. Donc, il y a ce taux de 10 à 15%, il était effectivement irréalisable industriellement. Et comment est-ce qu'il pouvait être réalisé? Il pouvait être réalisé que par des culbutes financières, c'est-à-dire les systèmes des LBO, où vous achetez la boîte, vous la revendez, et en la revendant, c'est-à-dire uniquement sur la valeur de revente, vous réalisez les 15%. Mais industriellement, on ne peut pas réaliser. Avec l'économie est très simple, là, pour le coup, vous pouvez avoir des croissances de marché de 3 à 4% par an. Vous pouvez avoir des gains de productivité de 3 à 4% par an. Donc il y a une limite max naturelle, c'est 8%. On ne peut pas faire mieux que la croissance du marché et des gains de productivité, c'est impossible. Donc plus que 8, ce n'est pas possible. Donc au-delà, on l'obtient comment? Par des artifices financiers de plus en plus lointains de la réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises industrielles sont dans une situation très délicate parce qu'à la suite de 1, 2, 3 LBO, le troisième ou le quatrième, c'est-à-dire celui qui s'est fait avoir, entre guillemets, qui a payé extrêmement cher la boîte par rapport à sa valeur réelle, et aujourd'hui, la boîte elle est absolument menacée parce qu'elle a une dette énorme qui est d'origine purement financière, liée à ses achats-reventes. Et ça, c'est le fait d'un certain type d'acteurs qui sont des fonds dits de private equity qui ont imposé des logiques de rentabilité qui étaient issues du monde du risque et de la start-up dans l'univers beaucoup plus mature de l'industrie traditionnelle.
Alors, on a jusqu'à 6 heures max. La deuxième partie, en fait, on a structuré un peu ça en deux parties. La première partie, c'est un certain nombre de constats sur lesquels, effectivement, vous avez, je pense, bien levé les bonnes questions sur la taille, sur le financement, sur l'innovation. Et sur aussi la sectorialisation, c'est-à-dire la spécialisation ou non sectorielle de l'industrie.